Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Nous sommes de retour à l'émission Prolongation à venir. Stéphane Leroux nous parlera de la bulle de la Ligue junior majeure du Québec qui se rendra en branle à Québec le 17 novembre prochain. On aura les détails, bien sûr. Les propos de Stéphane Waite, le Canadien pense vraiment obtenir et avoir sous la main l'un des meilleurs duos de gardiens de but pour la prochaine saison. En attendant, Danny, ça nous fait grand plaisir puisque il a gentiment accepté notre invitation aujourd'hui. Il porte les couleurs des Canucks de Vancouver. Il a porté également fièrement le chandail des Stars de Dallas. Il est aussi acériculteur à ses heures. J'ai nommé Antoine Roussel. Bonjour Antoine, merci de participer à notre émission.
Salut Antoine.
Bonjour messieurs, ça me fait excessivement plaisir de vous parler.
Antoine, bien évidemment, ce qui retient notre attention, c'est le processus qui est commencé entre les propriétaires de la Ligue nationale et les joueurs, dont tu fais partie, bien sûr, le groupe de joueurs. Tu as activement participé au travail avec l'Association des joueurs pour représenter les Canucks il y a quelques mois. Là, tu as passé les pouvoirs à quelqu'un d'autre. Quand tu entends la possibilité d'un retour au jeu au 1er janvier, avec tout ce que ça comporte, est-ce que dans la tête d'Antoine Roussel, qui a déjà travaillé à l'Association des joueurs, il est capable de se faire une idée, puis surtout, il est capable de se dire « c'est possible ou c'est pas possible »
Ben, pour répondre à ta question, c'est sûr que après avoir passé plusieurs mois à travailler là-dedans, moi, il me fallait premièrement prendre un petit break par rapport à ça. Je trouvais que c'était beaucoup d'heures, puis beaucoup de discussions qui, des fois, ça mène pas à grand-chose, puis c'est plus vers la fin que ça se règle. Pour la deuxième partie de ta question, c'est sûr que moi, j'entrevois ça vraiment d'une bonne façon. Je trouve que c'est excitant là, de se dire qu'on va rejouer au hockey cette année. Puis je parle avec beaucoup de monde ici au Saguenay. Puis ils ont hâte de voir du hockey. Les gens sont tannés de la monotonie, des rapports COVID, de la LCN, de tout ce tralala. Ils ont besoin du sport pour se divertir. Puis le hockey, ça en fait partie. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais donc c'est excitant en tant que joueur. Moi, je suis excité aussi de me dire qu'on va rejouer bientôt parce que comme vous, on parlait au début, de la sériculture, c'est le fun, mais ce que je préfère faire, là, c'est vraiment jouer au hockey. Là, c'est complètement différent. Jouer sur la glace avec le monde qui crie dans les estrades, c'est quelque chose. Donc, pour le 1er janvier, je trouve ça un petit peu rapide, puis peut-être même... ça me surprendrait que ça fonctionne pour le 1er janvier, mais pour un départ mi-janvier, je pense que c'est un petit peu plus réaliste.
Il y a quand même une logistique importante là, parce que si on voulait absolument laisser tomber la rondelle au 1er janvier, Antoine, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais l'espèce de deux semaines de camp d'entraînement, là, vous en aviez parlé un petit peu dans la négociation que vous avez eue cet été avec les propriétaires, mais c'est quand même très court. Là, camp d'entraînement le 15 décembre, toi, t'es au Saguenay, t'as pas besoin de traverser de frontières, tu t'en vas à Vancouver, t'es opérationnel, comme on dit, mais c'est pas le cas pour les joueurs européens et c'est pas le cas non plus pour les joueurs américains qui s'en viennent au Canada pour jouer pour des équipes canadiennes. C'est ça qui est ambitieux, peut-être, de ramener tout le monde à la job pour le 15 décembre?
Ben, je pense qu'il y a deux facettes à ça, vraiment. Là. Comme tu dis, moi, dans ma chance, moi, j'habite au Canada, puis je suis capable d'aller à Vancouver puis de m'entraîner tout de suite. Donc, dans un premier temps, le deux semaines qu'il faut arriver avant, ben, c'est les gars qui sont en quarantaine, puis ça peut être compliqué. Nous, je sais que les Canucks nous avaient demandé d'arriver deux semaines pour les joueurs étrangers, d'arriver deux semaines avant le début du camp d'entraînement de l'été dernier. Fait que les gars, avant le début de la bulle, ils étaient partis de chez eux, ça faisait au moins 5 à 6 semaines. Donc, ça fait beaucoup de temps. Puis moi, cet été, je suis parti à peu près 60 jours. Donc, c'est sûr que le deux semaines est vraiment un petit peu talent de quarantaine avant. Mais c'est sûr que ça prend un camp d'entraînement aussi, puis se remettre en forme. Nous, on l'a vu, c'était plate un petit peu d'arriver en avance, puis d'être loin de notre famille. Mais on a eu du succès. Les gars étaient prêts quand la rondelle est tombée pour le premier match contre le Minnesota. Mais on était prêts, on a été capable de rallier les victoires puis d'être bons tout de suite. Donc, ça prend quand même un certain temps pour se remettre la machine en marche. Puis ça fait, il y a des joueurs, ça fait excessivement longtemps qu'ils n'ont pas joué non plus. Donc, deux semaines, c'est peut-être un peu ambitieux, là. Par exemple, je pense aux Red Wings, puis mon ami Jonathan Bernier, ça fait un bout qu'il n'a pas joué, là, depuis le mois de mars. Donc c'est le fun de se remettre dans le beat aussi rapidement, mais aussi faut être réaliste là, que on a des Formule 1, ben ça leur prend quand même des pas mal d'essais libres avant de partir sur le Grand Prix du Canada.
Faut que ça fasse des tours de piste, Danny.
Écoute, exact. Ouais, mais est-ce que ça c'est au cœur des préoccupations, le fait, je comprends là, tu sais, la notion d'argent, c'est sûr qu'à un moment donné ça précipite des décisions, ça force des décisions dans certains cas, mais là la sécurité des joueurs, tu sais, comme tu le mentionnais, vous allez jouer presque 4 matchs par semaine de façon presque régulière pendant tout le, tu sais, à partir du moment où...
Danny, ça va être excessivement difficile. Moi, je l'ai déjà vécu plus ou moins dans la saison des Olympiques où oui. C'était excessivement condensé. Puis ça favorise les jeunes joueurs. Moi, c'est officiel. Là, je l'ai vu. On avait des vétérans qui étaient vraiment des bons joueurs, mais veux pas. Ben, quand t'as pas 20 ans, tu sais, c'est un petit peu plus difficile. Fait que ça favorise les jeunes joueurs. Mais il y a un autre aspect que j'ai pas mentionné dans ta dernière question aussi. C'est Noël. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi. Ouais. Tant qu'à commencer le premier puis à faire des tests physiques le 24 décembre, là, c'est plate, là, mais Noël, c'est une fois par année. Donc, je pense aussi qu'à cet aspect-là, ah, ouais. que si on le repoussait d'une ou deux semaines, ben ça donnerait plus la chance aux gars de repartir sur de bonnes bases puis d'arriver motivé aussi. Là, c'est sûr que même si on n'est pas là souvent à la maison, là, en ce moment, on l'est, mais quand ça va partir, cette situation-là, nos enfants ne les verra pas beaucoup.
Hein. Antoine, il y a un aspect financier qui est très important là-dedans, puis malheureusement, quand une industrie, que soit l'industrie, là, quand une industrie souffre, c'est souvent à ses employés qu'on demande certains sacrifices. Vous en avez déjà fait lors de la dernière négociation. Je veux pas perdre les gens, là, mais avec la dernière négociation, le report de 10% qui a déjà été négocié pour la prochaine, là, ça veut dire que vous partez à peu près à 70% de votre revenu pour jouer cette prochaine saison écourtée. Premièrement, est-ce que c'est logique de penser ça? Et deuxièmement, est-ce que vous sentez qu'on va vous demander de faire plus de concessions pour rendre ça possible encore?
Ben, je pense, tout ça, on s'en fait, je trouve, si on a fait des belles concessions cet été. Puis, ça a travaillé ensemble. C'était le fun de voir la NFL qui travaille avec les joueurs, puis on est arrivé avec une bonne solution. Maintenant, si on nous arrive en nous demandant d'autres aspects, c'est sûr que nous, on peut pas accepter ça. On a négocié en bonne et due forme, avec une bonne tête sur les épaules, en se disant qu'on prend des sacrifices pour cet été, on y va à Edmonton, et puis à ce moment-là, on sait que la saison ne partira pas l'année prochaine, qu'elle va être écourtée, qu'il y aura les Olympiques l'année prochaine. Donc on le savait, donc la Ligue nationale et les joueurs savaient dans quoi ils s'embarquaient. Donc c'est sûr que moi je m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres demandes de baisse de salaire à ce niveau-là. Puis je trouve que on en a fait notre pas. Et puis c'est écrit noir sur blanc aussi dans la nouvelle convention. Donc il n'y a rien vraiment qui a changé dans l'aspect COVID qui pourrait changer l'incertitude qu'il y avait avant de signer nos papiers cet été. Là.
Et Antoine parlait de une année normale, les revenus, ce qui est sur la table à partager, c'est autour de 5 milliards. Là, cette année, on dit possiblement autour d'un milliard. Donc, comment ça va fonctionner, la répartition de tout ça? Comment vous allez gérer tout ça avec les propriétaires? Parce que là, vous avez un plafond qui est garanti, mais comment ça va bouger dans le temps? Parce qu'il y a plein d'incertitudes encore, là.
Absolument. Puis nous, cette année, faut mettre les choses en perspective. On parle beaucoup d'argent. Les joueurs sont on est choyés, puis on fait pas pitié. Là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent d'arrache-pied du lundi au vendredi, qui font 60 heures semaine, puis qui ont de la misère à joindre les deux bouts en ce moment. Donc, tu sais, oui. Je pense aussi à ces jeux-là, à ces gens-là quand je parle. Mais ceci étant dit, quand on parle de notre situation, puis tout ça, ben c'est sûr que on l'avait prévu dans les négociations cet été que cette année on perdait 20% de notre salaire. L'année prochaine aussi. Puis l'année d'après, ça pouvait être maximum 18%. Puis après ça, ce serait un maximum de 6%. Donc la Ligue nationale, d'ici 2 ans, devrait renégocier le droit TV aux États-Unis. Puis on est vraiment des des camps que la Ligue nationale à ce niveau-là, parce qu'on a signé vraiment un deal à long terme aux États-Unis avec NBC, qui rapporte qu'il y a beaucoup d'argent, mais toute proportion gardée, c'est 200 millions. Puis le basket, c'est dans les milliards, je sais pas le chiffre exactement, mais c'est peut-être 2 ou 3 milliards par année de droits TV. Donc, on n'est pas dans la même game. Donc, quand ce nouveau deal qui arrive à échéance, je pense, dans 2 ans, va arriver, ben, les pertes qui se sont accumulées, qui ont roulé d'année en année, et puis pour garantir qu'on perde seulement un certain pourcentage de notre salaire, dans ce moment-là, vont être absorbées par cette nouvelle arrivée d'argent frais.
Okay. Mm-hmm. Antoine, entre vous, là, quand vous parlez entre joueurs, j'aimerais ça que tu m'amènes dans une conversation peut-être un peu privée. Dans le dernier marché des joueurs autonomes, là, il y a 50% moins d'argent qui a été donné aux gars qui ont signé des contrats. Il y en a qui ont même pas signé au moment où on se parle. Avez-vous le sentiment que votre business est en danger?
Non, vraiment pas. C'est pas le sentiment que je ressens. Je sais, ben j'ai l'impression que les joueurs plus vieux sont en danger parce que je pense que les joueurs qui étaient plus vieux avant étaient déjà en danger. Maintenant, ça s'est accentué. Je pense que pendant les deux prochaines années, ça va être difficile de voir d'être en renégociation de contrat parce qu'il y aura des choix difficiles pour certaines équipes à faire. Et puis, ça va favoriser des contrats à la baisse. Puis aussi, ça va favoriser surtout des jeunes joueurs qui arrivent puis qui ont tout approuvé puis qui demandent beaucoup moins de salaire. Donc, je pense qu'il va y avoir une rotation à ce moment-là de personnel qui va se rajeunir. Je pense que c'est ça qui m'inquiète le plus versus que la business en tant que telle soit en danger.
Antoine, il semblerait qu'il y ait des équipes qui actuellement, dans le contexte actuel, veulent pas vraiment reprendre des activités du fait qu'ils sont justement en difficulté financière, puis que pour eux, là, le scénario qui est sur la table de jouer avec très peu de partisans ou aucun partisan, ça tient pas la route par rapport à leur réalité financière.
Ah, puis ben ça, c'est sûr, c'est plate. Moi, ça me fait toujours mal au cœur d'entendre ça, c'est sûr. Maintenant, peut-être qu'il y a des marchés qui sont défavorisés, puis ça va profiter à d'autres marchés, par exemple Québec. Est-ce que Québec pourrait ramasser une équipe qui est en danger en ce moment, puis qui n'est pas capable de payer? Est-ce que Québécois pourrait faire ce move-là? Est-ce que une équipe pourrait se transférer à Houston, où il y a un gros marché, puis un gros bassin de population qui peut soutenir une équipe aussi? Donc,
Donc c'est possible.
Les trésors amènent des opportunités, je pense, vraiment.
Et c'est possible.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais renchérir sur Danny. Antoine, vous semblez, les joueurs en tout cas, avoir confiance qu'il va y avoir d'autres villes pour être capable de sauver le bateau?
Ben ça, c'est sûr. Je pense que vous en parlez souvent aussi en monde, des équipes, des villes potentielles où pourrait avoir des équipes. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 où ça pourrait être intéressant. Puis peut-être que ça va favoriser ce mouvement-là.
Antoine, évidemment, vous avez été assez clair, les joueurs. Une bulle de 60 jours, il n'y en aura pas. Puis je pense que les propriétaires, là, avec la facture, on dit que c'est une facture là, qui joue entre 75 et 95 millions. Les bulles de Toronto et Edmonton ont coûté. Ils n'ont pas l'air à vouloir aller là. Il y a quand même une coupe d'affaires. On parle beaucoup de la division canadienne. Tu t'es prononcé là-dessus. On parle aussi peut-être là de faire en sorte que quand les équipes se déplacent, à titre d'exemple, quand les Canucks vont venir jouer à Montréal, ça pourrait être pour une série qui ressemble au baseball, là, c'est-à-dire 3 matchs en quelque chose comme 5 soirs. Est-ce que tu penses que ça, c'est viable? Est-ce que tu penses que c'est une façon, en quelque sorte, de vous faire jouer, de pas vous mettre dans une grande bulle et de vous protéger contre la COVID en même temps?
Absolument. Je pense que c'est une excellente solution. Ça fait beaucoup de sens. Puis là, c'est sûr que tu m'aguiches un peu en me disant passer plus qu'une journée et demie à Montréal, passer 5 jours, ça serait fantastique. Je pourrais voir ma famille, puis ça pourrait être vraiment excitant. Donc tu viens de me vendre le rêve, là, si je comprends bien.
Mais la division canadienne, là, nous autres, on est tous bien emballés. Est-ce que tu as parlé à des joueurs? Oui, parce que honnêtement, Danny et moi, 5 jours à Vancouver, on va les
pas
prendre.
Pas de problème.
Mais Antoine, est-ce que tu as eu le même feedback par rapport à cette histoire de division canadienne? Est-ce qu'il y a il y a un certain engouement derrière ça, entre autres là, chez les gars des Canucks.
Ben, je pense que oui, un petit peu. Les gars, ils sont curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir, quelle dynamique aussi ça pourrait avoir. Ouais. Peut-être sur le long terme, on ne sait jamais. Peut-être la Ligue va s'apercevoir que c'est vraiment le fun, puis que ça devrait être tout le temps comme ça. Donc ça amène des opportunités, comme je le disais, cette crise-là. Puis on n'aurait jamais essayé ça si c'était pas de la crise. Puis on va avoir une réponse à savoir si les fans vont aimer ça aussi. Mais c'est le fun, tu sais, les gens les partisans du Canadien, ils voient pas beaucoup Quinn Hughes puis Elias Pettersson, parce que c'est tard là où les heures où on joue. Là, ils vont les voir plus régulièrement. Ça va amener de l'exposition à ces jeunes joueurs-là. Je pense que Quinn Hughes puis Elias Pettersson devraient être excessivement excités de dire qu'ils vont souvent jouer dans l'Est, puis leur marque de commerce va grossir aussi. Donc, pour des superstars de l'Ouest, c'est bon pour eux. Puis à la place de voir Austin Matthews qui fait toutes les annonces, ben ce sera peut-être Elias Pettersson puis Quinn Hughes. Fait que là, ça peut être intéressant de ce niveau-là, de leur point de vue. Là.
En terminant, Antoine, le temps file un peu, mais je vais absolument te poser cette question-là avant de te laisser aller sur ton quatre roues, là. Mais dans tout ce qu'on entend comme scénario,
il
là, la
pas,
division...
Martin, il serait gentil, il livre pas. On n'aura pas le sirop d'érable.
Non, mais je m'essaye pareil, Danny. On va finir par en avoir une canne de sirop d'érable. Antoine, on n'entend pas la possibilité pour la prochaine année, à tout le moins, parce qu'on a besoin de revenus pour soutenir la business, puis les revenus et tout ça, on n'entend pas la possibilité de ramener la ronde de qualification, puis de faire un format comme on a vu cet été, de 24 équipes en série. Es-tu surpris qu'on n'entende pas cette option-là, vu la situation économique?
Ben, en fait, je pense que vraiment ce qui limite et menote la Ligue, c'est vraiment les Jeux olympiques. Mm-hmm. Parce que si il n'y avait pas les Jeux olympiques, je pense que c'est sûr qu'on jouerait 82 matchs. Qu'on ferait encore la ronde qualificative que j'ai trouvé excessivement excitante, puis c'était super le fun à jouer, et pour les fans, je trouve que c'est le fun, ça amène plus de matchs qui ont une saveur de playoffs, c'est des playoffs, puis avec de l'engouement, c'est plus cool de cet aspect-là, puis vraiment c'est pour cette raison-là qu'on n'entend pas parler vraiment de cette ronde de qualification, selon moi.
Antoine, merci beaucoup de ta grande générosité. C'est toujours très, très apprécié. Puis on espère te voir avec des patins puis avec l'uniforme des Canucks au cours des prochaines semaines.
Une semaine à Montréal.
Merci beaucoup. Hey, ça va être peut-être même pouvoir venir en studio.
Super. Ça va nous faire grand plaisir. Merci. Antoine Roussel était notre invité.
Au revoir. Bye.
On s'arrête pour quelques instants. Nous serons de retour dans un moment à prolongation.